Chers amis, chers camarades, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette fête de lutte ouvrière. Cette fête qui est un moment important alors que nous voyons chaque jour autour de nous, parmi nous, se durcir les attaques contre le monde du travail et que nous voyons les franges les plus réactionnaires de la société répandre leurs idées avec d'autant moins de complexes que la gauche au gouvernement n'en finit plus de se déconsidérer dans l'opinion populaire. Nous, les travailleurs, nous avons droit au mépris quotidien des puissants. Un mépris dont se nourrissent les hommes politiques qui nous gouvernent pour justifier leur politique entièrement tournée contre les classes populaires. Tout est permis. Casser les retraites, le code du travail, rendre légales les baisses de salaire, l'allongement de la durée du travail ou les deux. Laisser licencier par dizaines de milliers chaque mois, puis légiférer pour rendre les licenciements plus faciles et moins coûteux encore pour le patronat. Oui, tout cela est possible et pas une semaine ne se passe sans l'annonce d'un mauvais coup ou d'un autre en préparation. Tout cela est possible jusqu'au moment où les travailleurs se mettent vraiment en colère et décident collectivement de ne plus se laisser faire. Et là, le mépris se transforme en hargne, comme on a pu l'entendre contre les travailleurs d'Air France. Pour condamner l'explosion de colère de ces travailleurs, le patronat et le MEDEF ne sont pas montés en première ligne. Ils ont confié cette tâche à ceux dont c'est le boulot au quotidien de faire accepter aux classes populaires le sort qui leur est fait. Et on a vu se succéder devant l'écran ou s'étaler dans la presse des dirigeants syndicaux condamnant sans réserve les travailleurs en colère, leur reprochant des violences. On y a vu des dirigeants politiques de tous bords, les traitant de voyous pour Valls, les qualifiant de chienlit pour Sarkozy ou les accusant de lynchage par la plus jeune des Le Pen. Pourtant, la violence fondamentale, c'est celle des actionnaires qui décident froidement, d'un coup de crayon, de supprimer des milliers d'emplois. La violence, c'est celle qui s'exerce chaque jour sur des millions de travailleurs qui se battent contre un mur pour tenter de trouver un emploi et qui se débattent avec rien pour se loger, se nourrir et se soigner. Alors oui, les travailleurs d'Air France ont mille fois raison de ne pas se laisser faire et de faire entendre leur colère. Et nous sommes solidaires d'eux, sans aucune réserve, alors qu'ils s'élèvent contre un plan qui vise à supprimer 3000 emplois et à dégrader plus encore leurs conditions de travail. Cette violence et ce mépris, on les a vus à l'œuvre et plus terribles encore quand des centaines de milliers de personnes fuyant la misère et la guerre venant de Syrie ou d'ailleurs et n'ayant plus rien d'autre à perdre que la vie pour échapper à l'invivable ont tenté de rejoindre l'Europe. La responsabilité des pays impérialistes dont la France est entière dans le chaos de la guerre qui ravage la Syrie, tout comme elle est entière dans les guerres qui ravagent l'Afghanistan, la Libye ou l'Irak. Cette responsabilité est aussi totale dans la situation économique désastreuse de bon nombre de pays d'Afrique dont les régimes corrompus ne tiennent en place que grâce au soutien intéressé des pays impérialistes. Mais malgré cette responsabilité, malgré l'urgence de l'accueil des migrants, les dirigeants européens ont préféré mener la politique criminelle du durcissement du contrôle aux frontières. C'est par de froides décisions politiques que l'on a laissé se noyer des milliers de personnes en Méditerranée. C'est par le durcissement des contrôles aux frontières que l'on a contraint des migrants à risquer leur vie au point de la perdre dans un camion sur le bord d'une route en Autriche ou sous les roues d'un camion ou d'un train à Calais. Pris de court par l'annonce de Merkel d'accueillir des centaines de milliers de migrants, Hollande a fini par annoncer que la France prendrait sa part de l'accueil des réfugiés en annonçant le chiffre dérisoire de 25 000 personnes à accueillir en 2 ans. À peine cette annonce avait été faite que la droite a brandi la menace de l'invasion en appelant de ses voeux la fermeture des frontières. Et à gauche, les voix n'ont pas manqué pour affirmer que l'État devait être intraitable pour distinguer les migrants dignes d'être secourus car victimes de la guerre, de ceux qu'il fallait repousser sans ménagement et sans exception, car seulement victimes de la misère. Défendre et répandre de telles idées, pratiquer de telles sélections aux frontières est abject et criminel. Les guerres et la famine frappent d'une même violence les classes populaires dans cette société où les inégalités perdurent, imposées par des dictatures qui maintiennent dans une extrême misère la majorité de la population. C'est pourquoi il est vital que les travailleurs et leurs organisations défendent le droit pour tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, de pouvoir circuler librement et de pouvoir s'installer là où ils le souhaitent. Elles ont été nombreuses, les bonnes âmes, à nous expliquer qu'avec le chômage massif, la fragilité des finances publiques et le déficit de la Sécu, ce pays ne pouvait pas accueillir plus de pauvres. Taisant, au passage, que s'il y a plus de 5 millions de chômeurs, si les caisses de l'État, du chômage ou de la sécurité sociale sont au plus bas, ce n'est pas à cause des migrants. Ce n'est pas pour des raisons économiques que les dirigeants politiques européens ont choisi de claquer la porte au nez des migrants venant sauver leur peau et celle de leur famille. Il s'est trouvé des patrons pour se montrer intéressés par la venue d'une main-d'œuvre compétente, qualifiée et peu chère. Non, ce sont des raisons politiques qui ont motivé leur attitude. Et Hollande et son gouvernement n'ont pas été en reste pour flatter les préjugés qui leur semblaient les plus payantes et les plus à leur portée. Se montrer le plus intransigeant et le plus restrictif possible quant à l'accueil des réfugiés pour ne pas froisser l'opinion la plus réactionnaire du pays. Mais cette attitude leur a aussi permis de répéter en boucle un mensonge que l'on ne peut accueillir dans le pays trop de pauvres car les pauvres coûtent cher. Oui, ce qu'ils veulent faire croire, c'est que les classes populaires dont font partie les migrants, cela coûte cher à la collectivité. Ils répètent que la sécurité sociale coûte cher, que les retraites coûtent cher et que les caisses de chômage coûtent cher. Mais en disant cela, ils nous mentent, car ils savent que ce sont les travailleurs de ce pays, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur nationalité, qui produisent toutes les richesses. Et que ce sont ces mêmes travailleurs qui financent par leurs cotisations les caisses de retraite, de chômage et de l'assurance maladie. Au contraire des actionnaires qui bénéficient de la complicité des gouvernements successifs pour être toujours plus exonérés sur les profits qu'ils tirent de l'exploitation du monde du travail. Alors non, ce ne sont pas les pauvres, les travailleurs ou les migrants qui coûtent cher à la société. Ce qui coûte cher à la société, c'est le parasitisme des capitalistes qui s'accaparent la meilleure part du fruit du travail de la classe ouvrière. C'est pour cela que nous, les travailleurs, nous devons nous sentir solidaires des migrants et les considérer comme nos frères, car ils font partie de notre classe sociale et parce que nos intérêts se confondent face à ceux qui cherchent à nous diviser pour mieux nous exploiter. Nous convaincre qu'il faut être solidaires de ceux qui nous exploitent, c'est le leitmotiv des gouvernements qui se succèdent. Le patronat réclame de pouvoir licencier plus facilement. Et le gouvernement lui donne raison avec la loi Macron en expliquant que cela lèvera des freins à l'embauche. Le patronat réclame des baisses de charges. Il y a peu, le dirigeant du MEDEF promettait même 1 million d'embauches en contrepartie. Depuis, le gouvernement a fait le CICE qui offre en cadeau 20 milliards d'euros par an au patronat qui, lui, ne promet plus rien. Il laisse le soin à Valls et Macron de nous mentir en nous expliquant qu'on exonère les patrons pour qu'ils soient compétitifs, qu'ils résistent à la concurrence pour qu'enfin on puisse espérer des créations d'emplois. Pendant ce temps, mois après mois, les chiffres du chômage augmentent. Car toute cette politique n'a qu'un seul but, protéger coûte que coûte les profits des capitalistes qui viennent d'engranger 30 milliards de profits pour les plus gros, rien que ces 6 derniers mois. Et comme la production n'augmente plus, que la consommation des classes populaires diminue, eh bien les capitalistes sont décidés à préserver leurs marges bénéficiaires en allant les prendre directement dans les poches des travailleurs et dans les caisses de l'État. Ils le font avec le chantage à l'emploi et la hausse du temps de travail, rendu légalement possible comme à l'usine automobile Smart. Ce sont les accords de compétitivité, rendus eux aussi légaux, qui permettent la baisse des salaires ou du taux horaire. Partout, c'est l'intensification du travail et les premières répercussions de l'éloignement de l'âge de départ en retraite, qui n'est pourtant physiquement pas envisageable dans bien des métiers. Alors oui, ces attaques sont rendues possibles parce que la classe ouvrière, assommée, démoralisée, déboussolée, ne trouve pas la force de répondre collectivement et massivement à cette offensive du patronat. Mais il n'y a qu'à voir comment, dans les usines, sur les chantiers, s'est exprimé le soutien à la colère des travailleurs d'Air France, pourtant dénigrés de toutes parts. Il n'y a qu'à voir avec quelle fierté a été perçue l'attitude d'un militant ouvrier qui refuse, devant les caméras, de serrer la main à Hollande en lui disant ses quatre vérités, pour comprendre que le moral des travailleurs n'est pas condamné à rester en berne. Pour financer les cadeaux faits au patronat, le gouvernement a choisi de faire des coupes sombres dans ses budgets. Il peut encore lui arriver d'être dispendieux, comme c'est le cas avec le financement des interventions militaires. Mais c'est encore, finalement, pour arroser avec des commandes d'armes les capitalistes du secteur. Alors, c'est sur les budgets utiles à la population que les gouvernements successifs ont choisi de faire des économies. Et pour ce qui est des économies, tout y passe. Les hôpitaux, l'école, les routes, les baisses de dotations aux collectivités locales annoncent des diminutions drastiques des services rendus à la population. Dans les villes, cela va conduire à des économies sur les crèches, les cantines. Certains élus s'en serviront de prétexte pour supprimer des emplois. 10 départements dans le pays ne sont déjà plus en mesure de boucler le financement du RSA, et ils seront 40 dans cette situation en 2016. Cela est d'autant plus révoltant que les impôts des classes populaires ne cessent d'augmenter. Ces dernières semaines, les salariés des centres des impôts ont vu affluer, au point de ne plus pouvoir tous les recevoir, chaque jour, des centaines de personnes aux revenus modestes, désemparées devant le montant de la taxe d'habitation qu'ils avaient à payer et dont ils étaient exonérés partiellement ou totalement jusque-là. Et tout cela pour accorder des ristournes d'impôts à Dassault, Muliez ou à la famille Peugeot. C'est dans ce climat et cette situation que se profile la prochaine échéance électorale au mois de décembre. Le discrédit de la gauche gouvernementale est tel que la droite trépigne d'impatience à l'idée de regagner les régions perdues et les postes de notables qui vont avec. Les travailleurs n'ont rien de bon à attendre d'une telle alternance, car si la droite est prête à une chose, c'est bien dans la surenchère des coûts apportés aux classes populaires. Quant aux dirigeants du FN, ils s'imaginent déjà à la tête de quelques exécutifs régionaux après ce scrutin. Le FN compte sur l'image d'un parti anti-système pour collecter les voix des déçus, et ils sont nombreux, de l'attitude des gouvernements de droite ou de gauche vis-à-vis des classes populaires. Mais dès qu'ils sont aux affaires, comme ils le sont dans quelques mairies, ils s'en prennent aux cantines scolaires, aux employés municipaux, aux centres sociaux et aux associations. Non, Le Pen et ses amis ne s'en prennent pas à la pauvreté. Ils s'en prennent aux pauvres. Ce parti, ses idées, sont les pires ennemis des travailleurs. Un ennemi qui se découvre bien vite, comme on a pu le voir lorsqu'une Le Pen parle d'un lynchage à propos des chemises des deux cadres d'Air France, ou lorsque Philippot, vice-président du FN, affirme qu'il est normal qu'on arrête chez eux, au petit matin, des travailleurs, tout cela parce qu'ils ont osé laisser exploser leur colère face aux menaces de licenciement. Quant au Parti socialiste, pour faire campagne, il tente le chantage habituel. Ne pas voter pour lui, c'est laisser le champ libre à la droite, ou pire, au FN. Mais c'est tout l'inverse qui est vrai. C'est la politique du Parti socialiste qui est responsable de la montée du FN. C'est sa politique qui laisse le champ libre aux idées réactionnaires qui touchent y compris les classes populaires. Pour lutter contre la montée du Front National, il faut affirmer clairement notre opposition au Parti socialiste, à la politique du gouvernement et aux répercussions de cette politique sur le monde du travail. Et c'est faux de dire, comme le fait le Parti communiste, que la politique de Hollande peut être infléchie. C'est faux, car le Parti socialiste a fait le choix conscient de servir le camp de la bourgeoisie et que ce choix, contrairement à ce que laisse entendre le PC, ne tolérera plus la moindre concession au monde du travail. Tous ces partis font leur les règles qu'impose la bourgeoisie à toute la société. Tous ces partis nous expliqueront que la bonne gestion des affaires des capitalistes est le préalable indispensable à la moindre action publique. Tous ces partis nous laisseront seuls dans le face-à-face qui nous oppose à la férocité et à l'avidité des capitalistes. Ils nous parleront des difficultés du patronat. Eh bien nous, nous voulons défendre durant cette élection un programme qui s'adresse aux travailleurs. Alors oui, nous serons présents aux prochaines élections régionales et nous le serons dans toutes les régions de la France continentale. Je serai le candidat de lutte ouvrière pour la région des Pays de Loire et Yves Cher conduira notre liste dans le département de la Sarthe. Nous proposons à l'électorat populaire de se prononcer sur une politique qui représente les intérêts de la classe ouvrière à court et à long terme. Cela signifie, dans les conditions actuelles de la crise, de mettre en avant un programme de lutte contre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Eh bien nous, nous disons que pour mettre fin au chômage, il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois dans les entreprises et répartir le travail entre tous sans diminuer les salaires. Et à tous ceux qui nous disent que cela n'est pas possible, que les entreprises ne supporteraient pas de telles contraintes, eh bien nous répondons que nous demandons à voir. Parce que lorsque l'on découvre que l'un des plus grands groupes industriels mondiaux, Volkswagen, vole et trompe des centaines de millions d'automobilistes, qu'il trompe tous les États de la planète et leur législation, on peut facilement imaginer le peu de scrupules qu'ils ont, comme tous les autres capitalistes, à dissimuler la réalité des profits qu'ils distribuent à leurs actionnaires. Eh bien nous, nous défendons dans notre programme l'idée que les travailleurs doivent accéder aux comptes de ces grands groupes capitalistes et nous sommes certains que nous y trouverons les moyens de financer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Alors, les travailleurs qui ont une conscience de classe et qui ne supportent plus d'entendre le patronat et ses serviteurs politiques monopoliser la vie politique et nous distiller tous leurs mensonges, les travailleurs, eh bien, ils doivent prendre la parole dans ces élections et la meilleure façon de le faire clairement, c'est de voter pour les listes lutte ouvrière. Dans cette campagne, nous comptons sur le soutien de tous ceux qui peuvent nous aider et vous en faites partie. Un soutien militant pour nous aider à faire circuler les idées, les tracts, mais aussi un soutien financier pour nous aider à payer tout le matériel électoral qui nous coûte très cher. Sous peu, nous aurons pour cela des listes de souscriptions que nous ferons circuler. Personne ne pourra se tromper sur le sens des votes pour lutte ouvrière. Ils seront interprétés comme l'affirmation d'un camp, celui des salariés, chômeurs, retraités, qui sont victimes de la crise et qui sont conscients d'être sacrifiés, mais qui ne l'acceptent pas. Ces votes montreront que des travailleurs sont conscients qu'il ne suffit pas de voter pour un programme défendant leurs intérêts pour l'obtenir, mais qu'il faudra l'arracher à la grande bourgeoisie et l'imposer par des luttes collectives puissantes. Ces votes montreront que les travailleurs sont conscients qu'on ne peut pas réformer le capitalisme, mais qu'il faut le renverser. Il manque à nos camarades de travail une perspective qui mérite qu'on se batte pour elle. Cette perspective, c'est la lutte pour arracher son pouvoir à la grande bourgeoisie et marcher vers une société communiste. Nous voulons profiter de ces élections pour montrer qu'il existe un courant politique qui se place dans la perspective du renversement du pouvoir de la bourgeoisie sur la société. Car les dirigeants actuels de cette société, la grande bourgeoisie et ses sous-fifres politiques, sont incapables de résoudre aucun des problèmes fondamentaux qui se posent à la société, que ce soit la crise économique, le chômage de masse, que ce soit la pollution ou les multiples guerres qui transforment de plus en plus de régions du monde en enfer pour la population. Le système capitaliste est en faillite sur tous les plans. Il faut que la tradition qui a été présente pendant longtemps dans la classe ouvrière, celle du communisme révolutionnaire, continue de se manifester dans le monde du travail. Les élections sont une occasion supplémentaire de montrer qu'il existe des femmes et des hommes qui continuent de se revendiquer des idées de lutte de classe, ces idées qui ont représenté une force pour les travailleurs dans le passé, et nous en sommes convaincus, ce sont elles qui représentent toujours la seule perspective valable pour les travailleurs et pour toute la société. Nous savons que pour reprendre la place qui est la leur au sein du monde du travail, ces idées ont besoin d'être portées par un parti qui les représente sans concession. Un parti qui représente jusqu'au bout les intérêts politiques et sociaux de la classe ouvrière, de la classe de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Ce parti fait encore défaut aujourd'hui. Mais la campagne électorale qui vient, en nous permettant de faire connaître nos idées au plus grand nombre, peut être aussi une étape dans la construction de ce parti authentiquement communiste et authentiquement révolutionnaire qui est nécessaire. C'est avec ces perspectives que je vous souhaite un bon succès pour la campagne électorale qui vient. Et en attendant, je propose que nous profitions au mieux de la fête qui se poursuit.